Si vous voulez, après, c'est une question, je dirais, de... Moi, je parle souvent de méthode quoi, mais c'est en fait prendre conscience de vos singularités, de votre valeur ajoutée. Qu'est-ce qui fait la différence avec votre voisin? Ça ne veut pas dire que votre voisin n'est pas bon, ça veut dire que vous êtes différent de lui. En quoi vous êtes différent et en quoi la personne va avoir envie de vous recevoir? Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et qui vous touche et que vous avez envie que ça soit quelqu'un d'intime, je prends un exemple tout bête, parce qu'on dit que les meilleurs courriers pour travailler la lettre de motivation, c'est faire des lettres d'amour, hein, donc ce n'est pas pour rien. Donc l'idée, c'est de se dire, je ne vais pas lui dire que je râle le matin, qu'il ne faut pas me parler, que tant que je n'ai pas bu un café, je suis odieuse. Bref, je ne vais pas faire la liste de mes incompétences et de mes défauts. Je vais me mettre en avant, je vais faire en sorte d'être dans de la séduction, quelque part. S'il a envie après de me revoir et de me rencontrer, c'est qu'il a été touché par ce que vous avez été. La démarche de l'entretien, c'est de la même chose. C'est un travail de séduction qui permet après de convaincre qu'on est la personne qui correspond et la personne a repéré le petit plus qui fait la différence et qui fait qu'on a envie de la recruter. C'est pareil dans la relation. Donc il faut rester authentique, je pense. Il ne faut pas travailler des choses genre comment je m'assieds, comment je parle, comment on fait ce que ça, je suis complètement contre. Il y a des gens qui vont... Vous avez des tas d'écoles comme ça, vous avez des tas de centres de formation qui travaillent là-dessus, sur comment... Alors, poser la voix, comment poser la voix, le fait effectivement de se tenir bien droit, le fait de mettre en arrière ses épaules, ça fait une jolie posture, et en même temps, on libère la cage thoracique, et donc du coup, on tremble moins. Ça, c'est vrai. Mais après, tout le reste de comment je me mets, je pense qu'il ne faut pas... apprendre par cœur. J'ai encore quelqu'un qui avait préparé le concours, c'est un concours d'aide-soignant, parce qu'en ce moment, le concours d'aide-soignant est de plus en plus difficile. Il avait appris par cœur un discours professionnel qu'on lui avait appris au niveau de son école. Il est sorti de là, il a dit « c'était pas moi qui parlais ». Et on lui a sorti, le jury lui a dit « écoutez, qui vous êtes? On sait rien de vous. Vous venez de nous faire des phrases toutes prêtes. C'est du préformaté, quoi. C'est comme quand on vous demande de parler de vos qualités, de vos défauts. Vous avez tous la capacité d'avoir une cinquantaine de défauts, une cinquantaine de qualités. Je suis désolée, j'en suis certaine, je mets ma main là, au feu comme on dit. Vous en avez tous une cinquantaine de défauts comme de qualités. Assumez vos défauts, mais assumez aussi vos qualités. Vous êtes toujours en train de mettre en avant vos défauts et vos incompétences dans les entretiens, très facilement, ça ne pose pas de problème. Hein, dire j'ai tel et tel défaut, alors les qualités, on est toujours gêné. Mais mettre en avant ces qualités, c'est quelque chose qui se travaille aussi. C'est faire le point sur tout ce qu'on possède en qualité et en défaut et sélectionner, on revient à la valise, quelles qualités, quels défauts sont les plus appropriés par rapport au poste. Ça aussi, c'est important. Et donc, ça se travaille. Et donc, on est encore sur une histoire de respect de soi, de réfléchir à ses singularités. Et plus vous allez rencontrer les professionnels, plus vous allez faire un bilan de vos compétences et bien vous connaître, plus vous saurez pourquoi vous êtes intéressé par telle et telle chose, et plus vous allez être motivé. Tout est une question de motivation, en fait, et d'implication. Je dirais même, je vais vous dire quelque chose, je pense avec le recul qu'il vaut mieux avoir moins de compétences, mais d'être persuadé de sa valeur ajoutée, que d'en avoir 3 tonnes et de ne pas en être conscient. Parce que malheureusement, on se basera que sur ce que vous allez mettre en avant. Donc si vous avez de l'humilité, je pense que je suis capable, ah peut-être que, ah bah écoutez, mettez-moi à l'essai, on verra, mais là je ne peux pas vous dire. Hein. Alors les qualités, je pense, on dit de moi que je suis à l'écoute des autres, que je sais prendre des responsabilités, que j'ai fait preuve d'indépendance, ça n'a pas du tout le même impact que, bah écoutez, au travers de telle expérience, j'ai pu mettre en place telle et telle chose qui me fait prendre conscience que j'ai telle et telle qualité ou tel et tel point perfectible. Ça n'a pas du tout la même valeur pour quelqu'un qui vous écoute, que si vous parlez de peut-être ou on dit de moi que. Alors ça aussi, ça a été prouvé en recrutement. Plus vous parlez de vous en disant le je, plus ça a un impact. Alors que si vous dites que c'est les autres qui disent de vous que, ça n'a pas du tout la même valeur. Mais ça, c'est évident. Mais seulement la plupart des gens le font. Dès que vous devez parler de vos qualités, de vos compétences, vous avez un mal fou à dire je. Vous dites, il paraîtrait que, il a fallu que... Hein, quelles sont vos compétences? Il a fallu que je fasse ça. En gros, vous étiez obligé, vous n'aviez pas envie, mais il a fallu que. En fait, c'est encore une histoire d'humilité. Bon, c'est ce que je dis d'ailleurs à d'autres cabinets de recrutement ou à d'autres, à même des employeurs que je prépare pour les présélections. Parce que moi, quand je présélectionne, j'ai intérêt à ne pas me tromper non plus. Parce que si jamais je me trompe, pour info, je refais le recrutement gratuitement. Et en plus, ils ne risquent pas de me rappeler hein, si je me plante. Hein. Généralement, il y a assez de concurrents. Hein. Donc j'ai intérêt à trouver les 5 présélectionnés qui vous collent par rapport à ces attentes. Donc si vous n'êtes pas suffisamment mis en avant, C'est mon gros souci, ça. Bah, je vais me dire, bon, alors moi, j'y crois, mais il n'a pas su. Est-ce qu'il va savoir se mettre en avant devant la personne? Et parfois, ce n'est pas parce que la personne est désagréable qu'elle ne vous écoute pas, qu'elle bâille, qu'elle se gratte la tête, qu'elle a l'air de souffler, qu'elle n'est pas sensible à ce que vous êtes en train de dire. Ça aussi, faites attention. On est tout le temps en train d'essayer de décoder, mais quelquefois, on se plante complètement. Vous avez des gens qui sont super froids d'apparence. Moi, je le sais en formation, je me plante très souvent. J'ai des gens comme ça, je me dis, oh là là, lui, il va m'embêter, ou il n'est pas d'humeur, il est venu, il est obligé. Il va... Et en fait, pas du tout. Vous avez des gens qui vous donnent l'impression d'être froid, désagréable ou pas avenant. Et du coup, ça vous met mal à l'aise, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Vous avez des gens parfois très réservés, mais en même temps, c'est juste parce qu'ils ont besoin d'observer. Puis une fois qu'ils se sentent à l'aise, ils sont super chaleureux. Et puis des gens super spontanés, super accueillants, qui vont vous offrir un café, qui vont limite vous faire la bise en entretien, puis qui derrière vous prendront pas. Parce que c'est des gens extrêmement durs. Ça veut rien dire. Il faut se méfier aussi des apparences. Mais je dirais qu'à partir du moment où vous êtes convaincu vous-même que la personne a tout intérêt de vous recevoir, sinon elle loupe quelque chose, c'est pas du tout être égocentrique, hein. C'est être conscient de sa valeur ajoutée. Parce qu'on a fait un travail de ciblage. C'est le problème de pas... Comment vous dire ça? En plus, la thèse n'aide pas. Alors, je ne vais pas généraliser, ça dépend des thèses. Mais la plupart du temps, vous travaillez pour quelqu'un quand même qui vous demande de rendre compte et qui ne vous demande pas toujours votre point de vue. Ça dépend des gens, ça dépend des labos. Mais voilà. Donc, du coup, vous n'êtes pas préparé à ça. Quand vous êtes à l'école, vous écoutez un professeur. Quand vous êtes au lycée et à l'université aussi. Avant, c'est les parents qui vous donnent l'éducation, qui vous disent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et qu'on dit, pourquoi? Tu verras quand tu seras grande, on leur dit. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, on n'est pas du tout préparé psychologiquement, je dirais, à prendre conscience de cette valeur ajoutée. Et après, on arrive dans certaines écoles, on vous dit, vous êtes les meilleurs, vous êtes les winners. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, c'est du bourrage de crâne, mais en fait, on gratte. Moi, j'en ai eu des comme ça, je les ai démolis parce que je ne supportais pas. Et en fait, en réalité, vous grattez un peu, ils s'écroulent, quoi. Parce qu'en fait, c'est que du vent, comme on dit. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça qui vous en mettent plein la vue. Puis en réalité, ils vous énervent parce que vous vous dites, oh là là, il n'arrête pas, lui, avec son moi-je. Ils disent, moi, je suis, moi, je peux. Et en réalité, c'est des gens qui sont vachement dans le doute, qui sont super mal à l'aise, qui ont besoin de se rassurer derrière un apparat. Et certainement, vous avez dû en rencontrer, plus les gens sont humbles, professionnellement, une fois qu'ils ont été reçus, hein, recrutés, l'humilité fait souvent preuve d'une grande compétence. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Dans votre labo, dans vos équipes, dans les gens que vous rencontrez. Les gens qui s'intéressent d'abord à vous, qui sont discrets, sont souvent des gens extrêmement d'une grande compétence. C'est comme les gens qui ont des sous aussi. Quand ils montrent, c'est qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et en réalité, quand c'est pareil, c'est la même chose. On va montrer avec des marques, des choses. Voilà, on se cache derrière des apparats, c'est toujours pareil. Donc l'idée, c'est pareil, c'est de se dire, voilà, je peux garder mon humilité, ce que je suis, parce que vous avez des compétences énormes, vous avez quand même fait beaucoup d'années. J'ai des gens qui m'ont dit, arrêtez de dire qu'on est l'élite, machin. Mais je suis désolée, moi, quand j'ai des gens qui ont des bacs moins 20, je n'exagère pas, ils me disent « Oh là là, vous avez de la chance cet après-midi, vous allez avoir des gens en thèse. » Vous savez, je vais avoir plus de boulot avec les gens en thèse qu'avec vous. »« Ah bon ?» Parce qu'ils ne savent pas se valoriser. Si, vous saviez. Et ils ne me croient pas. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que vous avez tellement déjà le diplôme devant que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Puisqu'on vous a donné le papier comme quoi vous étiez intelligent. Non mais c'est un peu ça, c'est ce qu'ils me disent. Hein. J'ai une dame qui m'a dit ça avant-hier, une dame qui fait le nettoyage. Qui m'a dit ça. Mais cette dame, si je lui demande de me parler de son métier, elle va m'en parler avec conviction, parce que c'est une dame qui aime bien faire le nettoyage, d'ailleurs. Et il y a une personne qui a fait une thèse en sciences humaines qui est passée sur envoyé spécial et qui a écrit un bouquin, d'ailleurs, et qui adore être femme de ménage. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle a écrit un bouquin sur la passion qu'elle a pour le ménage. Elle a fait tous les boulots dans le cadre de son travail. Et elle a été, je crois qu'elle a été psychologue. Enfin, les psychologues sont particuliers peut-être, mais bon. Et aujourd'hui, elle fait du nettoyage dans les entreprises. Elle adore arriver à 5h du matin, quand tout le monde dort. Bon, après, il y a d'autres choses qui doivent être inconscientes, je ne vais pas dans le détail. Mais elle adore son travail. Elle a écrit un bouquin sur l'art du ménage. Puis, bon, pourquoi pas? Après tout, l'idée, c'est ce que je dis, hein, l'idée, ce n'est pas le projet des gens, c'est ce qu'ils en font et pourquoi ils aiment leur métier. Vous avez quelquefois des gens passionnés, je ne vais pas rentrer dans le détail, sur certains métiers, ça fait froid dans le dos. Vous dites, mais comment il peut faire ça? Bon, après, il y a d'autres raisons. Mais il faut tous les métiers, il y a tous les métiers. Donc, l'idée, c'est de savoir pourquoi on le fait, pourquoi on est motivé, et pourquoi, au-delà d'un métier, vers quel type de poste on a envie d'aller. Parce qu'un métier, c'est que le début du projet. Hein. Derrière, il y a le poste, la fonction, l'environnement de travail, les responsabilités, il y a tellement plus de choses dans un projet pour le définir. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'être convaincu de ce qu'on possède, quoi. Et ça, ce travail-là, ça passe par le bilan de compétences. Alors, bilan de compétences, c'est 24 heures, normalement, avec un psychologue du travail et un environnement, enfin un établissement agrémenté pour pouvoir vous suivre sur 24 heures, la remise d'un document de synthèse à la fin, la confidentialité des résultats, bien évidemment, et la remise d'un portefeuille de compétences où, dedans, on fait le point sur le fameux parcours. Ça, c'est la définition même de la démarche, de la méthode de bilan de compétences, où le but, c'est faire le point sur tout le parcours, les motivations, les aspirations, en vue de dégager un projet professionnel ou, le cas échéant, un plan de formation. Voilà, ça, c'est la définition du code, parce que c'est de la loi. Il y a un code du travail avec des définitions. Si vous tapez bilan de compétences, vous allez avoir tout sur Internet en termes d'informations. Et après, vous avez des listes d'organismes agrémentés ou non en fonction de l'OPCA, dont vous dépendez, ou inscrit ou pas par le pôle emploi pour les fameux CPP confirmer son projet professionnel. Voilà. Mais l'idée, si vous voulez, j'y reviens encore, je préfère quelqu'un qui ait moins de compétences mais qui sache bien les valoriser que quelqu'un qui en a qui ne sache pas le faire. Et si le matin, vous ne vous dites pas, il a toutes les raisons de me recevoir, il ne fait pas de bêtises, il a raison, parce qu'il ne se rend pas compte jusque-là de ce que je vais lui apporter, de ce que je vais lui dire ce matin, si vous dites, oh là là, mon Dieu, le bol que j'ai, il a pensé à moi, mais c'est fou ça, j'y croyais pas, c'est dingue, quelle chance j'ai. Et puis vous y allez en vous disant, de toute façon, ça ne marchera pas, je vous dis, ça ne sert à rien d'y aller. Absolument à l'avance s'autoriser à se projeter sur l'idée qu'on y est, quoi. Et donc préparer aussi des questions. Sur demain, si j'y suis, qu'est-ce que j'ai envie de savoir, qu'est-ce que je vais poser comme question, se préparer dans la projection. Et petite parenthèse, au-delà de tout ça sur l'entretien de recrutement, parce qu'on fait plein de choses, on fait plein de liens. L'entretien de recrutement, il y a deux personnes. Une personne qui vous évalue, mais vous, vous devez évaluer si le poste vous convient. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui soit intéressé par votre profil, mais que vous, ça soit non. Important. Il y a des gens, que j'ai un bilan, qui ont refusé des tas de postes. Ce n'est pas parce que vous avez répondu à une offre parce que les critères de séduction vous intéressent, quand vous arrivez, ça colle aux critères. Non ? Donc là, c'est pareil. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que la personne vous a convaincu ? Donc, avez-vous des questions ? Oui, vous avez des questions. Et les questions, vous les préparez avant d'aller à l'entretien. Et c'est forcément des questions sur le futur, sur la projection, sur demain, si je commence, qu'est-ce qui me manque comme information ? Et plus vous vous montrez exigeant sur le poste et vous vous dites, tant que je ne suis pas au clair sur ce qu'on attend de moi, je ne partirai pas, dans votre tête, plus la personne qui est en face va se dire, oh là là, elle est motivée. Parce que quelquefois, on n'arrive pas à se dire si le candidat est motivé ou pas. Parce que c'est toujours oui, mais non, c'est pas forcément oui. Nous aussi, on a un travail pour vous séduire. Le professionnel que vous recevez et qui vous parlez de son métier, il est stressé quand il vous reçoit. C'est pour ça que souvent, c'est les bons en plus qui vous reçoivent. Parce que généralement, c'est des gens qui aiment leur métier aussi, qui ont envie d'en parler, de prendre le temps avec vous. Donc du coup, vous allez leur poser des questions. Vous les préparez évidemment, des questions agréables à entendre. Pas combien vous gagnez, c'est quoi vos concurrents, c'est quoi la pression au travail, qu'est-ce que vous détestez. Enfin, si vous commencez comme ça, il vous reçoit 5 minutes. L'idée, c'est de poser des questions agréables aussi. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Comment vous avez été amené à faire ce métier? Alors quelquefois, ils me font rire parce qu'ils disent qu'il faut un bac plus 5 obligatoirement. Puis quand vous lui dites, et vous, eux, c'est par hasard, eux, c'est pas du tout ça. Bon, vous, c'est pas trop le problème, parce que le bac plus 5, vous l'avez, mais c'est ce que je dis à ceux qui ont des bacs moins 8, notamment. Parce qu'après, il y a une question de compétences. Et pour information aussi, la validation des acquis de l'expérience aujourd'hui, c'est l'expérience vaut le diplôme. Vous pouvez, au bout de 3 ans d'expérience dans un domaine, vous présenter devant des membres de jury spécialistes de la formation pour valider votre expérience en diplôme. C'est bien la preuve. C'est ce que je dis aux gens qui n'ont pas fait d'études, notamment, c'est bien ou très peu d'études, c'est bien la preuve que l'expérience, elle est aussi très importante. Donc, en fait, ce qu'il faut pour être un candidat idéal, et vous avez tout, quelque part, si vous allez vers des projets qui correspondent, bien évidemment, à votre parcours, c'est que vous avez la formation, quand même, et ce n'est pas rien, vous n'avez pas fait peu de choses, vous avez quand même fait une thèse, vous allez être docteur, vous avez fait des stages, vous avez travaillé en labo, donc vous avez minimum 3 ans d'expérience professionnelle, donc vous avez ce qu'il faut, à la fois l'expérience et à la fois les connaissances. Là, j'ai envie de vous dire où il y a un gros manque, un gros décalage, c'est les savoir-être. C'est la prise de conscience de vos capacités, de vos compétences sociales, de votre valeur ajoutée, de vos motivations, de vos traits de caractère, de vos valeurs relatives au travail. Voilà, c'est tout ça qui vous manque. Donc je dirais que le bilan, souvent, on l'axe beaucoup sur la partie savoir-être.